RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, bienvenue, c'est parti pour 3 heures de liberté d'expression, de débat. Ce sont les grandes gueules, on est là en direct avec vous au 32-16 bien entendu. N'hésitez pas à nous appeler pour venir débattre de 9h à midi sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. Autour de la table pour finir la semaine, l'entrepreneur Emmanuel De Villiers. Bonjour Emmanuel.
Ave Grand Truchot, bonjour à tous.
Ça commence bien. L'éducateur Abel Boyi, salut Abel.
Salut les amis.
Et puis une maître Sandrine Pégan est avec nous. Bonjour Sandrine.
Bonjour à tous. Alors j'ai une chanson dans la tête depuis ce matin. Aïe. Et je voulais vous la faire partager parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait.
C'est sûr que c'est une bonne idée.
Ouais. C'est l'amour à la plage. Voilà, c'est tout.
Super.
Moi, j'y reviens.
On peut peut-être trouver l'original et la passer d'ici la fin de l'émission.
Oh, je pense qu'on ne verra pas trop la différence.
C'est vrai
mon timbre
peu,
de voix est tellement extraordinaire.
C'est un peu de circonstance. C'est l'amour c'est de la chanson des années 80, ça. C'est pas du tout de la génération.
Oui, mais bon, j'aime bien. Il faut que je m'habitue à vous.
Alors, puisque nous avons une avocate sur le plateau, ça tombe bien parce qu'on va parler d'une affaire qui fascine, qui passionne, l'affaire Jubilard avec un nouveau rebondissement. Cédric Jubilard a indiqué aux forces de l'ordre l'emplacement là où il avait enterré son épouse après l'avoir tuée. On a donc un Cédric Jubilard très coopératif. Cinq ans et demi après la disparition de son épouse Delphine, il a donc conduit les enquêteurs là où il avait dissimulé le corps, enterré le corps à une dizaine de kilomètres de son domicile familial dans le Tarn. Il l'a enterré dans un champ la nuit. Une centaine de gendarmes mobilisés pour des fouilles qui se poursuivent en ce moment même. On a déjà réussi à récupérer une partie du corps de la jeune femme. L'identification des ossements retrouvés est en cours. On a donc, nous dit-on, un Cédric Jubilard très coopératif, qui parle, qui explique. Son avocat nous raconte que Cédric Jubilard a évoqué devant la justice l'élément déclencheur qui a fait qu'à un moment donné, il a été inondé, submergé par une émotion qui l'a dépassé, extrêmement forte, et qui a provoqué un passage à l'acte irréfléchi. Son client fait part de regrets importants qu'il n'a pas réussi à exprimer pendant des années, mais qu'il exprime aujourd'hui avec beaucoup de sincérité. Donc, on avait un Jubilard qui se disait innocent, qui niait, qui avait même construit un alibi puisqu'il il s'était fait passer pour le mari éploré qui recherche sa femme. Maintenant, on a un Jubilard qui reconnaît qu'il a mal agi, mais que visiblement, on comprend que c'est une dispute, selon lui, qui a mal tourné, qui ne voulait pas donner la mort à son épouse. Alors, on verra si ça tient lors d'un second procès qui est toujours prévu en septembre, mais qui sera peut-être reporté. Mais, mes chères grandes gueules, et je me tourne vers toi, Sandrine, c'est uniquement de la stratégie cynique ou est-ce qu'on peut croire à la sincérité de ce revirement ?
Moi, je pense que ce revirement est tout sauf anodin. Parce que maintenant, on a un monsieur Jubilard qui n'essaie plus de convaincre qu'il est innocent, il essaie de convaincre qu'il est moins coupable. Parce que rappelez-vous, donc, il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre en automne dernier, meurtre par conjoint. Et là, il revient sur ses déclarations, il fait des aveux et il essaie de montrer que ce sont des violences qui ont été commises sur son épouse, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et c'est là, en fait, où est toute la différence. Parce qu'à partir du moment où ce sont des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la qualification pénale est différente. Donc, les enjeux pénaux, forcément,
c'est
le sont aussi.
C'est plus 30 ans, mais c'est
plus 30 ans, mais c'est 15 ans.
C'est 15 ans, c'est la moitié.
Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis que ce revirement, pour moi, il n'est pas. Je veux dire, il n'est pas anodin.
Mais est-ce qu'il est crédible?
Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une manipulation, une stratégie de défense.
Mais en tout cas,
il est cohérent.
Il va falloir qu'il soit convaincant. C'est-à-dire qu'il n'est pas anodin. Il est un peu spectaculaire. Est-ce qu'il peut convaincre un jury populaire que tout d'un coup, il a pris conscience qu'il fallait qu'il raconte la vérité pour ses enfants, peut-être, comme on dit, soulager sa conscience?
Déjà, première chose, les aveux ne font pas en sorte qu'il y ait une nouvelle qualification pénale, parce qu'il faut que ce soit corroboré avec d'autres éléments. Il ne faut quand même pas oublier que lui, pendant des semaines et des semaines avant la disparition de son épouse, il avait déjà proféré des menaces envers son épouse. Il avait également dit à sa mère qu'il voulait l'enterrer, qu'il allait tout faire pour la faire disparaître. Donc, le fait que ce soit prémédité, peut-être qu'il ait déjà fait des repérages avec le lieu, parce que c'est à 15 km de chez lui. Le fait que, mine de rien, il soit parti de chez lui pendant à peu près 6 heures, laissant ses deux enfants, dont un bébé de 18 mois, seul au domicile, pendant qu'il allait transporter le corps et puis et procéder à l'enfouissement dans la forêt. Donc, tout ça ne va pas forcément aller pour lui, pour dire que c'était une dispute qui a dégénéré et qu'ensuite de quoi, bon, il a voulu cacher le corps pour ses enfants.
Abel Boyi. Pour moi, ce jubilard est un pervers narcissique. C'est le schéma que l'on retrouve dans tous les féminicides. C'est-à-dire que quand on voit la situation, il semble que Delphine voulait refaire sa vie avec un autre homme. Mmh. En tant que pervers narcissique, le jeu J-E-U est dicté par le jeu J-E, donc tout doit passer par lui. Donc Delphine Jubilard ne pouvait pas refaire sa vie en dehors du périmètre que lui avait décidé, c'est-à-dire sa présence. Ensuite, il l'a tué, il s'en est vanté quand même auprès de deux co-détenus. Il s'en est vanté auprès d'une femme avec qui il a eu aussi une relation intime. Exactement.
Jennifer, qui était donc l'ex-compagne de Cédric Jubilard, qu'il a rencontré après en prison, mm-hmm. qui racontait notamment à BFM TV il y a un an,
exactement.
qu'il lui avait avoué avoir tué Delphine, et il avait même confié avoir enterré le corps dans un champ. En fait, il avait tout raconté
déjà. Il avait
déjà.
Tout dit. Et même cette Jennifer, elle avait été l'objet de quelques moqueries, en fait, parce que certains l'avaient accusée à demi-mot de vouloir prendre la lumière. Et aujourd'hui, c'est toujours le jeu qui prédomine, parce que c'est lui qui, au final, révèle les choses. Et il a pu dire, que ce soit son avocat ou autre, ben vous voyez, j'ai dit la vérité, ils ont vraiment trouvé les os.
Sauf qu'il l'a dit cinq ans et demi après, quoi.
Oui, mais c'est toujours le pervers narcissique, c'est-à-dire que lui, dans son esprit, c'est-à-dire, il pense dicter le rythme, je dis bien il pense, parce qu'il se fourvoie dans une illusion pas possible, mais il pense donner le rythme et il pense être le maître de son jeu d'échecs. Or, ce type, il est perdu et j'espère que la justice ne reviendra pas sur sa position initiale parce que c'est dramatique ce qui se passe et c'est un féminicide de plus commis par un pervers narcissique de plus qui refuse qu'une femme puisse faire sa vie
en
dehors de lui.
Donc toi, tu dis qu'il faudrait pas accorder des circonstances atténuantes pour ce féminicide.
Ben non, mais parce que c'est un peu gros. En plus, le timing est un peu gros et quelqu'un qui se vante comme ça depuis un certain temps, sans compter en plus qu'un moment aussi les médias ont pu dire qu'il avait un certain succès auprès des femmes aussi, cette fascination pour les tueurs, pour les détenus. Donc il y a tout qui nourrit en fait le réservoir du pervers narcissique. Donc non, il faut pas revenir sur la décision initiale.
Emmanuel De Villiers.
Beaucoup de choses viennent d'être dites avec clarté. C'est une histoire sordide. Moi je trouve qu'on lui fait trop de publicité
à ce
sinistre individu qui rejoint la cohorte des grands menteurs criminels, puisque interrogé en direct, même à la télévision, il a été capable de nier. On peut citer un homologue, la personne de Monsieur Daval, Daval.
Oui.
Je trouve qu'il faut
qui en pleurait,
limiter l'exégèse de tous ces cas épouvantables avec les questions de savoir ce qui va rester de la dépouille mortelle, etc. Car je pense qu'on peut donner des idées à d'autres détraqués, presque pour un retour d'expérience, pour faire encore mieux. Et tout ça, c'est le monde de l'horreur, un monde diabolique, car il vaut mieux se séparer avec perte et fracas que d'assassiner son conjoint.
Oui, mais ce qui est incroyable et effarant, c'est que ses premiers avocats, il a changé d'avocat, ses premiers avocats étaient sincèrement convaincus de son innocence. Je réécoutais ce matin une interview de Maître Martin qui expliquait que, bon, parfois elle a eu des clients qui disaient « je suis innocent », mais elle savait bien que c'était pas innocent, elle n'était pas dupe, et là, elle était persuadée qu'il était innocent, elle en appelait même à son intuition féminine, etc. C'est fou, parce que finalement, qui pouvait penser que Cédric Jubilard était innocent? Enfin, à part peut-être ses avocats, il y avait quand même beaucoup de choses qui laissaient à penser effectivement qu'on était dans un filmicide, j'ai envie de dire assez classique, c'est-à-dire que l'homme ne supportant pas que sa femme va le quitter, ce soir-là sans doute elle lui a dit écoute c'est terminé, je m'en vais. En plus c'est quand même quelqu'un, c'est excusez-moi mais c'est un peu un cas socio, c'est-à-dire qu'il travaille pas, il vit aux dépens de sa femme, donc en fait si elle part, il va tout perdre, il va perdre sa maison, il va perdre ses revenus puisque il utilisait son argent aussi pour acheter sa drogue, donc en fait on a voilà, mais tout ça est assez classique.
Et c'est étonnant
que tout d'un coup, ces avocats aient pu penser que
Sandrine ne va pas être d'accord. Mais si notre monde était un peu plus efficace d'un point de vue judiciaire, il y a des moyens de faire avouer des ordures comme ça.
Bah, tu veux faire comment?
Il y a des moyens. Je pense qu'au 19e siècle, on en serait très rapidement, on aurait eu la vérité.
Voilà. Tu prends une pince, t'arraches les dents.
Ouais, voilà.
La torture, c'est interdit, Emmanuel.
Oui, mais il y a des moyens de faire établir. Pour quand même avoir la vérité, sans protéger ces crapules.
Oui, mais il y a des aveux, tu vois, dans le passé qui ont été estorquer, entre guillemets, sous le
Patrick
coup de la pression et la violence.
Voilà. Toujours prêcher l'exception.
Oui, mais ça crée
on ne fait pas une politique avec des exceptions, avec de la sensiblerie.
Oui, mais c'est grave, parce que l'erreur judiciaire, c'est quand même quelqu'un qui va faire de la prison alors qu'il est innocent.
Et avant, quelqu'un qui aurait pu être guillotiné, et puis finalement, son innocence.
On évite 1000 crimes.
Mais quand tu parlais de la naïveté de l'avocate, enfin la naïveté, mais. Enfin, oui,
non, mais c'est vrai que parfois, on est embarqué, nous.
Oui, mais en fait, un avocat est un être humain aussi, avec des émotions. Donc, il y a un rapport, tu le sais mieux que nous, il y a un rapport, des fois, que l'avocat ou l'avocate peut avoir avec le client. Un rapport, des fois, même, de l'ordre de l'émotion, en fait.
Il y a même des avocats qui se marient avec leur client.
Pourquoi on n'a pas passé au détecteur de mensonges?
Emmanuel, ça n'existe plus, ça.
On n'est pas dans les experts Miami, donc.
Pourquoi pas?
Et aussi.
Mais t'en as qui sont tellement fins manipulateurs, que finalement, ils peuvent aussi déjouer le système.
Pour finir mon propos, tu as des avocats qui sont beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans l'empathie, et qui croient peut-être un peu trop dans le fait d'accorder une seconde chance. Et puis, tu as aussi des avocats véreux aussi, le côté, il y a une affaire médiatique, je vais avoir raison contre tout le monde.
Là, c'était pas le cas. Elle avait l'air sincèrement convaincue qu'il était innocent.
Elle avait ce côté émotionnel.
Tout semblait croire que, tout laissait à penser qu'il était avec les témoignages, en plus des gens avec qui c'était.
Mettez-vous un tout petit peu à notre place. Moi, à un moment donné, j'ai défendu un homme qui avait décapité sa femme. On n'avait pas retrouvé la tête, d'ailleurs. On n'a jamais retrouvé la tête. Il est mort en prison sans indiquer où était la tête. Il lui avait aussi enlevé le cœur, le poumon gauche. Il lui avait coupé les mains. Et il disait que ce n'était pas.
Tu n'avais jamais douté, j'espère.
Attends, laisse-moi terminer, tu vas comprendre. Donc, il lui disait que ce n'était pas lui, que c'était la mafia du tango argentin, que vous connaissez tous, bien évidemment, bien très sûr. Revendicative, parce que les deux étaient professeurs de tango. Et il n'a jamais voulu reconnaître le meurtre de son épouse. Et nous, en tant qu'avocat, t'es là, t'es obligé un peu d'épouser la ligne de défense de ton client, parce que si toi tu viens à la barre et dire que finalement tu plaides pour sa culpabilité quelque part comme ça, alors que lui plaide son innocence, t'as un mandat, donc t'es obligé de d'épouser. En revanche, tu peux faire le nécessaire pour qu'il puisse retrouver la raison par rapport aux éléments objectifs du dossier qui sont présents pour asseoir sa culpabilité. Et ce qui était le cas, on lui disait écoutez, c'est quand même pas possible, il y a du sang partout dans votre garage, vous l'avez nettoyé à l'eau de Javel, donc à un moment donné, va peut-être falloir revenir à de plus juste raisonnement. Et finalement, non, il était enferré là-dedans et c'était compliqué. Et donc l'avocat, à un moment donné, va quand même dire, tu plaides pour dire ce que ton client pense. Et après, s'il y a des éléments objectifs qui viennent te contredire, c'est compliqué aussi pour nous.
Mais là, la défense qu'il est en train de mettre en place, à savoir la dispute qui a mal tourné. On s'aperçoit qu'elle a été étranglée, ça va être compliqué d'expliquer qu'il voulait pas la tuer. Mais bon, pourquoi pas. Ouais. Mais cette défense, il aurait pu l'utiliser en première instance. Et peut-être qu'il n'aurait pas pris 30 ans. Peut-être que ça aurait fonctionné. S'il avait d'ailleurs assez vite coopéré en disant « Oui, j'ai fait une énorme bêtise, je vais vous dire où je l'ai enterré. »
Oui, mais c'est
effectivement,
un menteur.
« J'ai paniqué, donc j'ai déplacé le corps, je voulais pas que mes enfants tombent dessus, etc. » Tout ça pouvait être entendable en première instance. Maintenant, en appel, 5 ans et demi après, bon courage aux avocats pour faire avaler cette nouvelle version.
Alors, je préfère la position de ces avocats-là aujourd'hui parce que justement, ils coopèrent, ils participent à la manifestation de la vérité.
C'est pas trop,
il a fait
c'est
le nécessaire.
Tard,
oui, mais je veux dire, en tout cas, si à un moment donné j'avais été ces avocats, si j'avais dû choisir en première instance ou en appel, je préférerais la position de ceux qui sont en appel.
Sauf que les premiers avocats étaient persuadés qu'il était innocent. Alors bon.
Ouais, mais même au-delà de ça, un féminicide, c'est un féminicide, c'est encore un bâtard qui a tué une femme. Et il faut penser qu'un féminicide en France tous les 2 à 3 jours, toutes les femmes aussi qui sont maltraitées aussi. Donc, au bout d'un moment, faut penser aussi aux victimes, faut penser aussi aux femmes qui suivent cette affaire.
Faut penser aux enfants.
Ben, justement, l'argument, il coopère pour ses enfants, mais faut imaginer ce que ses enfants doivent ressentir. Mais c'est comme si votre père vous met un deuxième coup de poignard.
Alors, faut préciser quand même que Louis, le fils aîné, qui avait 6 ans au moment des faits, d'ailleurs, qui avait témoigné qu'il avait entendu ce soir-là, ses parents se disputaient. Il a, via son avocate, fait savoir à son père qu'il lui demandait de dire précisément ce qu'il avait fait. Donc ça peut être joué aussi, ça peut être joué. Il n'a plus du tout de contact avec ses enfants. Et donc peut-être que ça aussi, ça a quand même joué dans l'idée qu'il fallait enfin qu'il dise la vérité.
Oui. Non, mais n'en déplaise à notre cher maître Pégan.
Ah, mais tu vas me laisser tranquille aujourd'hui.
Il est indéfendable, car chaque jour, il y a un matin, on se réveille après une nuit qui, selon la vieille Maxime porte conseil, il y a eu 1600 matins depuis 5 ans et plus.
Oui, mais...
C'est inadmissible, c'est intolérable, c'est indéfendable de ne pas s'être avisé et d'avoir dit je passe à table, je dis la vérité.
Mais les avocats leur disent qu'en fait ils s'étaient enfermés dans ce mensonge et qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir.
Bon, ça c'est dépassé, tu sais, le psyché c'est tellement compliqué, même nous quand on est face à des clients comme ça où on voit des choses, on se dit mais parce qu'on n'a pas le même raisonnement qu'eux. Donc pour nous c'est inadmissible, c'est insupportable, c'est inconcevable même. Mais pour eux, ils se sont enferrés dans une situation, ils ont été dépassés par les événements, il a commencé à nier et puis du coup après il est resté dans cette dénégation. Mais bien sûr c'est pas une preuve d'intelligence, mais au contraire c'est parce que j'imagine qu'il a quelques petits troubles aussi. Et là, la question est de savoir s'il avait l'intention de la tuer. C'est un féminicide pour toi. Maintenant, lui, il est en train de dire que c'était des violences qui ont entraîné la mort, mais il n'avait aucunement l'intention de la tuer.
On peut penser qu'en fait, il a tenté le coup
quand même.
En niant. Bon, ça n'a pas fonctionné. Et là, il se dit, de toute manière, j'ai pris 30 ans, il faut que je raconte autre chose et que là, maintenant, je vais jouer le tueur repenti.
La stratégie de défense, elle est cohérente, c'est sûr.
La repentance.
Comment, sauf à avoir plus qu'une mauvaise mentalité, une nature effroyable, on peut encore avoir envie de vivre après avoir menti, après avoir trompé tout le monde, après avoir assassiné son épouse au bout de 5 ans? Comment on peut encore avoir une stratégie?
Parce que les pervers narcissiques, on va dire à Belle, c'est pas des suicidaires.
Oui, ils sont comme ça. Tu parlais de la médiatisation. Lui, il est content. Mais c'est un schéma classique. Et en plus, on est dans l'actualité. On parle beaucoup des violences faites aux femmes et aux enfants. Moi, je suis comme toi. Moi, j'ai pas de pitié pour des gens comme ça. Je cherche pas à savoir si quand il était petit, son père l'a emmené dans la forêt. Est-ce que c'est un traumatisme et tout. Vous cherchez beaucoup à savoir ça dans le cadre de la défense.
Oui, parce qu'il faut expliquer.
Pour pouvoir expliquer. Mais non, il y a une femme qui est morte. Une femme qui est morte et qui est morte lâchement.
L'entourage a besoin de comprendre. La preuve en est, c'est que le fils écrit à son papa dis-nous comment ça s'est passé.
Il veut retrouver le corps de sa maman pour pouvoir faire le deuil. C'est important.
Là, il a demandé comment ça s'est passé. Parce que tu as besoin de comprendre pour pouvoir faire ton deuil, pour pouvoir passer à autre chose, même si c'est compliqué.
Comprendre pour savoir la vérité et pas comprendre pour trouver des circonstances atténuantes. Non. C'est deux choses différentes.
Et je pense
pas que ces enfants veulent excuser leur père par rapport à ça.
Non.
Leur père a tué leur mère. Ils ont besoin de savoir la vérité pour pouvoir aller de l'avant, sachant qu'ils ont pris perpète maintenant.
Oui.
Comment vous réagissez? Appelez-nous au 3216, on va continuer d'en parler. On sera avec Mourad Batik, qui est l'avocat de l'oncle et de la tante de Delphine Jubilard. Donc il donnera aussi lui son sentiment, Maître Batik, qui sera avec nous dans un instant. Et vous, bien sûr, au 3216, on attend vos réactions après ce nouveau rebondissement dans l'affaire Jubilard.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story à 9h24 avec autour de la table Abel Boyi, l'éducateur, Emmanuel Devigny, l'entrepreneur, le chef d'entreprise et puis Sandrine Pégan, l'avocate. On évoque l'affaire Jubilard puisque vous le savez, Cédric Jubilard a indiqué précisément le lieu où il avait enterré le corps de sa femme qui l'a tué. Cédric Jubilard qui coopère. Alors, est-ce sincère ou totalement opportuniste? C'est la question qu'on se pose. Mourad Batik est avec nous. C'est l'avocat d'une partie de la famille de Delphine Jubilard, de l'oncle et de la tante. Bonsoir, maître. Enfin, bonsoir. Bonjour, maître. À 9h24, c'est bonjour. C'est où il habite.
Pour les vacances. Hein.
Maître, est-ce que vous croyez à la sincérité du nouveau Jubilard, si j'ose dire?
Non, je ne crois pas à la sincérité de Cédric Jubilard. Je n'y crois pas aujourd'hui, je n'y croyais pas hier et je n'y croirai pas demain. Je pense que Cédric Jubilard est un stratège, c'est un ancien joueur de poker qui ne fait que mettre en place des stratégies pour sa propre personne. Et par conséquent, aujourd'hui, il sait qu'il a pris 30 ans de réclusion criminelle en première instance à la suite de mensonges absurdes allant jusqu'à expliquer que Delphine avait disparu parce qu'elle était devenue témoin de Jéhovah ou parce qu'elle était convertie à l'islam et peut-être un départ en Syrie. Et donc, il a vu que sa première stratégie ne fonctionnait pas. Il est maintenant dans une nouvelle stratégie qui n'a que pour objectif de réduire sa peine et personne n'en est dupe, évidemment.
Comment ont réagi les personnes, les proches, la famille de Delphine Jubilard que vous défendez ?
Avec un sentiment contrarié, évidemment, une forme de soulagement parce qu'ils vont pouvoir se rendre sur une sépulture digne de ce nom, pleurer Delphine, parler à Delphine et procéder à une phase de deuil qui leur a été confisquée pendant maintenant presque 6 ans, et un sentiment de colère immense, un sentiment voilà qui est évidemment viscéral, puisque Cédric Jubilard a confisqué ce corps, a enterré ce corps, a menti à de nombreuses reprises, et donc vous voyez, en droit de la dans le droit de la guerre, il est interdit de confisquer le corps de l'ennemi qui est mort. Et donc là, on a été au-delà du droit de la guerre, puisqu'il y a une confiscation pendant presque 6 années du corps. Et donc c'est extrêmement pénible et douloureux, cette forme de torture très longue, presque 6 années avant de pouvoir retrouver le corps. Et quand on dit retrouver le corps, vous avez bien compris, au regard de ce qui transparaît dans la presse, qu'on ne parle pas de corps, on parle de deux os, en l'espèce deux fémurs. Et donc finalement, on doit se contenter aujourd'hui par la réaction et par la volonté funeste de Cédric Jubilard, on va se contenter aujourd'hui de deux fémurs.
L'un de ses avocats explique que Cédric Jubilard fait aujourd'hui part de regrets importants qu'il n'a pas réussi à exprimer pendant des années et qu'il exprime aujourd'hui avec beaucoup de sincérité. Est-ce qu'on peut aussi imaginer que c'est un homme qui a pris conscience, qui s'est enfermé dans un mensonge, certes ça n'a pas fonctionné, et qu'aujourd'hui peut-être parce que pour ses enfants, pour tout le monde, il doit la vérité, et même pour lui aussi, pour peut-être soulager sa conscience, comme on dit?
Oui, j'ai entendu mon confrère parler sur votre chaîne de moments de réconciliation et de moments historiques. Alors, il n'y a pas de moment historique, hein, on n'est pas sur un événement qui serait de cet ordre-là. Et évidemment, la réconciliation, on s'inscrit parfaitement en faux sur cette notion. Il n'y a aucune réconciliation de près ou de loin avec Cédric Jubilard. Et encore une fois, je crois que Cédric Jubilard ne pense qu'à lui. C'est une énième mise en scène. On ne parlait plus de lui. Il a besoin que l'on parle de lui. Il a besoin d'être au centre de l'attention. Il a besoin d'être au centre de tout. Et il a besoin d'être au centre de sa propre stratégie. Maintenant, sur ses intentions, je n'ai pas la faculté de sonder les reins et les cœurs. Mais au regard du dossier, au regard de ce qui transparaît du dossier, pour avoir pratiqué Cédric Jubilard pendant tout le procès de première instance, je ne crois que très peu en la sincérité de ce monsieur.
Est-ce que le procès pourra vraiment se tenir, le procès en appel, au mois de septembre avec tous ces nouveaux éléments ?
Et c'est là où on en revient à la stratégie, aux différentes stratégies de Cédric Jubilard. Pourquoi est-ce qu'il choisit l'été juste avant l'audience devant la cour d'appel pour faire ses révélations? Est-ce que, et j'ai peut-être un esprit tordu, mais est-ce que ça n'est pas pour prolonger le dossier et rendre impossible la tenue du dossier au mois de septembre, et par conséquent faire en sorte, pourquoi pas, d'imaginer une remise en liberté? J'en sais rien, mais en tout cas, je crois que la question reste parfaitement ouverte quand on parle de Cédric Jubilard.
Mais on sait aussi que son fils Louis avait demandé à son avocat de faire passer un message à Cédric Jubilard, parce qu'il n'y a pas de contact direct entre les enfants et leur père, mais pour lui demander en gros d'avouer, quoi, de dire précisément où se trouvait sa mère. Est-ce que ça n'a pas non plus aidé quand même à aller vers ce revirement?
Si vous voulez, je n'ai pas envie de surcharger la mule plus encore, mais les opportunités qu'avait Cédric Jubilard d'expliquer les faits, de se libérer et d'expliquer où est la dépouille de sa compagne, il n'a pas fallu attendre le courrier de Louis. Il a eu la possibilité, dès lors que les gendarmes sont arrivés chez lui quelques heures après le meurtre de sa compagne, et puis après on a eu tout le temps de l'enquête. N'oubliez pas que Cédric Jubilard a été constitué partie civile pendant 6 mois. C'est quand même un élément extrêmement important, parce qu'on vient vous expliquer aujourd'hui qu'il était contraint moralement, physiquement, psychologiquement, que c'était très dur, qu'il y avait les médias, qu'il y avait les enquêteurs, qu'il y avait les magistrats, que tout le monde était sur lui, et que finalement ça l'a empêché de parler pendant 6 mois. Et ça vous rappelle nécessairement un autre dossier qui a défrayé la chronique, je parle du dossier d'Aval. Pendant 6 mois, Cédric Jubilard est victime dans le dossier, il est constitué partie civile, il est en liberté. Donc vous voyez, il n'y a aucune pression extérieure sur Cédric Jubilard qui empêche Cédric Jubilard d'expliquer où sa femme est en train de pourrir à l'extérieur. Et il ne le fait pas.
Vous avez le début de votre plaidoirie.
Emmanuel Le Villiers.
Le Jubilard nouveau est arrivé, comme le Beaujolais.
Mais si vous y croyez pas. Bon, merci Mourad Batik, merci d'avoir été avec nous quelques minutes, l'avocat de la famille de Delphine Jubilard. Merci maître. Jérôme est avec nous également au 32-16. Bonjour Jérôme.
Bonjour, bonjour à tous.
Jérôme
bonjour.
Nous appelle bonjour, du Jérôme. Morbihan en Bretagne. Vous suivez cette affaire également, quel est votre sentiment ?
Alors moi je suis un passionné entre guillemets de tout ce qui est affaires judiciaires, j'en suis beaucoup à la télé, enfin qu'elle soit française ou même étrangère. Et bah moi ce que j'en déduis c'est que Jérôme Jubilard était pas loin du crime parfait. Donc en fait la carte qu'il avait à jouer c'était le bénéfice du doute quoi. Donc tant qu'il a pu se raccrocher à ça en se disant il y a pas de corps, il y a pas de preuve et que sur un coup de poker au procès parce qu'il aurait l'avocat va peut-être me démentir, mais il aurait presque pu sortir, sans preuve, sans pratiquement rien contre lui, il aurait presque pu, au bénéfice du doute, ressortir de
prison. C'est ce qu'il espérait, oui.
Voilà. Donc aujourd'hui.
Je ne vous contredis pas, Jérôme.
Bon, merci. Ça veut dire que j'écoute bien ce que. Maintenant, aujourd'hui, dire qu'il fait ça pour les enfants, pour sa famille, à mon avis, c'est qu'il continue. Et je pense que c'est un mec qui est assez intelligent, même si c'est une ordure, c'est un mec qui est assez intelligent. Il s'est tenu à son premier truc, c'était tant qu'ils savent pas où est le corps, tant qu'ils n'ont pas de preuves, j'ai une chance de sortir. Aujourd'hui, j'ai pris 30 ans. La seule chose qui me reste à jouer, c'est de faire réduire ma peine, ouais. Faire mon malheureux et de faire croire que je le fais pour mes enfants, pour la famille de Delphine et tout et ça. Mais je pense qu'il pense qu'à sa pomme, quoi. C'est juste pour lui. Enfin, je pense que de toute façon, ses enfants, quand on a tué la mère de ses enfants, je ne pense pas qu'il reste assez d'humanité pour dire.
Jérôme, vous dites qu'il est intelligent. Pour un type intelligent, il est quand même dans une sacrée merde.
Oui, mais le pervers narcissique, il y a une forme d'intelligence.
Voilà. Oui, c'est, il est malin. Attendez, je vous dis, pour suivre beaucoup de documentaires sur les crimes, il y a des meurtriers intelligents, enfin qui sont intelligents ou malins ou qui font les choses bien. C'est horrible à dire. Je suis désolé, mais au premier procès, il aurait pu, ben, je vous dis, vous allez peut-être me contredire encore une fois, mais il aurait presque pu ressortir, quoi, si sans preuve, sans corps, sans rien, il aurait pu ressortir. Moi, j'avais ce doute-là.
Oui, mais il y avait quand même des éléments objectifs dans le dossier qui laissaient paraître que, justement, il était impliqué.
Il existe toujours, quoi. Il y a toujours cette histoire-là où le doute bénéficie.
Oui, sauf que le problème, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose pour le défendre. Et puis lui-même n'apparaissait pas quelqu'un de très sympathique. Mm-hmm. Il a pas dégagé beaucoup d'empathie. Alors là, visiblement, il change de visage. Là, les avocats sont en train de construire un nouveau personnage qui aurait des regrets, qui voudrait.
Bah oui,
le
juge Ruchot est laxiste.
Oui, mais pour corroborer ce que dit Jérôme, le pervers narcissique, en fait, dans sa réalité illusoire, a toujours l'impression de dicter le rythme des événements, en fait.
Oui, voilà.
Et son intelligence fourbe, justement, la définition de l'intelligence, c'est quoi? C'est la capacité continuelle de s'adapter aux situations. Le pervers narcissique, il a cette fourberie de vouloir s'adapter en pensant avoir le rythme. C'est un jusqu'au boutiste, en fait.
Quand tu dis pervers narcissique, bon, tout ça, c'est sympathique, mais intelligent, etc. Enfin, en regard de son parcours et autres.
Non, mais c'est un cachos, évidemment. Mais le pervers narcissique, il est dans une réalité illusoire.
Oui, oui.
Pourquoi est-ce qu'il tue sa femme? Parce que sa femme n'a pas le droit de vivre.
C'est pas Einstein non plus du crime.
Oui, mais quand on dit intelligence, on va changer le mot malice, si tu veux, ou fourberie, on peut changer ce mot.
Perversité.
Voilà, il est pervers, d'accord. Donc,
le malice, c'est pervers. Excusez-moi, je vais
aller sur
mon raisonnement. Quand vous voyez l'histoire que tout à l'heure l'avocat de la famille Jubilard en parlait, quand vous voyez l'affaire Daval, quand vous voyez que le mec, il vient aux obstacles, qui fait des marches blanches, qui va faire un marathon pour soutenir, pour. Ils sont dans leur truc jusqu'au bout.
Pire que ça, il va prendre un café chez son beau-père après la disparition. Il lui dit donne-moi un deuxième sucre.
C'est qu'ils n'ont pas le même mécanisme mental que nous. Moi, je me vois pas. Enfin, quand vous le voyez aux obsèques à pleurer sur les marches du perron, quand vous voyez les reportages qui passaient sur Canal, qui va au pas de famille à Noël, qui mange comme un goré, qui est avec toute la famille, alors qu'il sait très bien que c'est lui qui a tué sa femme et qui l'a enterré, et patati, mais c'est des gens qui ont pas. ils ont une autre façon de penser que nous, donc forcément que nous.
Ça, c'est vrai que c'est fascinant, Maître Pégan, ces comportements, parce que on a du mal à comprendre comment ces gens-là peuvent ainsi dissimuler ce qu'ils ont fait, donner le change et même se mettre du côté des victimes en disant mais c'est ma femme a disparu, je vais vous aider à la trouver, etc.
Dans l'affaire Daval, moi j'ai trouvé ça, mais j'étais sur le cul.
Mais sur l'affaire Jubilard, c'est un peu la même chose parce que lui-même se porte partie civile. Le soir de la disparition de sa femme, il appelle les copines, il envoie un message sur un groupe WhatsApp en expliquant elle a disparu, vous avez des nouvelles, etc. Moi je suis toujours fasciné par ça.
Moi aussi je suis très fasciné, mais Jérôme, par exemple, regardez, Daval, il a quand même pris 25 ans de réclusion criminelle. Donc finalement, sa tactique, elle n'a pas bien prospéré. Mais c'est vrai que ça reste fascinant pour nous, pour le commun des mortels, parce qu'on est en train de se dire comment on peut rester dans la dénégation comme ça et dans le déni. On peut parler de déni traumatique.
C'est quoi? C'est le manque d'empathie? C'est des gens où il n'y a pas d'affect?
Je pense que c'est aussi une façon de se protéger eux-mêmes.
Il ne faut pas craquer.
Parce que sinon... tu emploies le mot à dessein, c'est-à-dire que sinon, s'ils craquent, en fait, c'est tout leur monde qui s'effondre. Ouais. Et donc, quand on voit les psychanalystes, les psychiatres qui viennent en parler sur les plateaux, ils le disent très clairement que c'est vraiment une question de protection. Parce que pour eux, sinon, c'est tout qui se casse la figure et leur entourage, le fait qu'on puisse les voir comme ils sont. Et donc, de s'enferrer et de rester dans le déni, pour eux, c'est quelque chose qui va les maintenir en vie. C'est horrible à dire, mais pour nous, parce qu'on a un raisonnement qui est normal.
Oui, mais donc, parce qu'on ne va pas faire de la victimologie de ce tueur.
On explique les choses. Mais en même temps, là, on est entre nous. Je veux dire, tout le reste, peu importe. Là, ce qui est vraiment... extrêmement beau pour la famille. Quand je dis beau, vous ne le prenez pas mal, c'est que maintenant, on sait où elle a été enterrée. Maintenant, avec toutes les expertises qui vont avoir lieu par rapport à la médecine légale, donc il y a les expertises anthropologiques pour savoir s'il y a eu des fractures avant, pendant ou après le décès. Il va y avoir aussi des expertises sur les dents, si on retrouve des dents, on va savoir si elle a été étouffée, ce genre de choses. Tout ça, je pense que pour la famille, c'est très important pour pouvoir initier un deuil qui n'a pas pu débuter
et organiser les obsèques avec
ça. Et surtout peut-être aussi avec une date de mort, puisque je ne sais pas si sur la pierre tombale il y a une date qui avait été fixée.
Merci Jérôme d'avoir appelé au 32-16. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'affaire Jubilard. On vous a d'ailleurs posé une petite question sur le compte X des Grandes Gueules. Est-ce que selon vous il est sincère ou manipulateur? Il n'y a pas photo. Manipulateur à 93,3%. Dans un instant, on s'en fout pas avec Anaïs Sens qui nous rejoint.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
9h42, Les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui Sandrine Pégan, notre avocate, Abel Boyi, l'éducateur et l'entrepreneur, le chef d'entreprise Emmanuel Devilliers, et Anaïs Sens qui vient de nous rejoindre.
La plus belle.
RMC, Les Grandes Gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Il des gifles.
Arrêtez de flatter Anaïs. Bonjour Anaïs.
La plus gentille. Mais la plus belle, la plus gentille, la merveilleuse, la magnifique.
Le 32-16, est-elle la plus gentille? À vous de prononcer.
Bon, les GG, est-ce que vous seriez prêts, à faire un don pour sauver la forêt de Fontainebleau, qui a quand même vu 10% de sa surface partir en fumée? Vous seriez prêts à faire un petit don?
Pourquoi pas? Maintenant, moi, ce qui me gêne dans la communication, c'est que comme c'est Fontainebleau, comme c'est Paris, il y a une communauté. Bah oui, quand ce sont les forêts en province, on n'en parle pas autant.
Oh, bah, c'est pas. Bah
oui, on en parle de façon globale. Là, c'est Fontainebleau,
Sandrine,
c'est
donnerais...
le truc parisien, donc.
Sincèrement, non.
Et. Oui, un don, pourquoi
en
pas?
En tout cas, ce sera bientôt possible.
Il y a don et don.
De faire un don, puisque Emmanuel Macron veut lancer une grande collecte pour sauver la plus grande forêt de la région parisienne. Écoutez le président de la République.
Dès maintenant, on va lancer la mobilisation pour replanter et rebâtir cette forêt. La Fondation du patrimoine, l'ONF et la ville de Fontainebleau vont lancer là, dans les prochaines heures, un guichet unique pour permettre de collecter la solidarité nationale. Et je compte donc sur chacune et chacun pour pouvoir, dès maintenant, donner pour la forêt de Fontainebleau et nous permettre de faire le travail dans la durée, de replanter, de rebâtir et de continuer de nous améliorer aussi pour que cette forêt soit encore demain mieux protégée.
Voilà, Emmanuel Macron en visite hier à la forêt de Fontainebleau. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Abel?
On s'en fout pas.
Sandrine?
On s'en fout pas non plus.
Emmanuel?
Non plus.
Tiens.
Bah, c'est dramatique parce que c'est une forêt historique au cœur même de la France royale qu'il a planté. Et pour compléter le propos d'Abel, il faut quand même souligner que je crois que les spécialistes de forêt mettent en avant que c'est une richesse très diverse, oui, d'un point de vue des écosystèmes, tout un tas de choses dues à son ancienneté, son côté immaculé depuis des siècles. Ça ne retire rien au problème des autres forêts qui brûlent, notamment dans le sud, mais qui sont souvent plus mono.
Oui, il y a une biodiversité très importante, voilà, dans cette forêt.
Mais alors, pour quand même savoir raison garder, on évoque 10% de la forêt qui a brûlé, ça veut dire 90% demeurent. Donc il faut avoir ça quand même à l'esprit pour ne pas tomber dans un fatalisme et une exagération de ce drame.
Mais pardon, excusez-moi, oui, dans un pays où on te prend à peu près 50% de ce que tu gagnes, bah oui, en impôts, en cotisations,
on a encore besoin
que le président vienne faire, excusez-moi, l'aumône en expliquant on va faire un guichet unique parce qu'on n'a pas d'argent. Alors non, mais enfin, excusez-moi, oui, mais les impôts, c'est pas censé, d'autant plus que je rappelle que la forêt de Fontainebleau est gérée par la puissance, oui, publique, hein. Oui. C'est l'ONF,
oui, mais
l'organisme national. Donc en fait, à un moment donné, à quoi servent nos impôts?
Bah oui.
Ok, mais un petit don par, oui, des millions de personnes et des gros dons,
oui,
on se souvient de Bernard Arnault, de François Pinault pour Notre-Dame de Paris, oui, font qu'on collecte une, oui, somme très importante. Bon, c'est quand même pas idiot,
oui, oui,
face à un tel drame national, mais d'offrir la possibilité
de don. Le drame de Fontainebleau est plus important que le drame des autres forêts parce qu'il y a la biodiversité, parce que c'est Paris. Et il fait un appel national, c'est-à-dire que la personne qui habite dans les Pyrénées, qui habite en Vendée, qui habite dans les Landes, va donner de l'argent.
Ça s'appelle de la solidarité.
Oui, d'accord. Et pour les forêts qui brûlent à côté de chez lui, il n'y a rien.
Mais
donc,
oui,
tout est pour Paris encore, parce que Paris, c'est la capitale.
Parce que ça a été très médiatisé, en fait.
Ouais, oui,
oui. C'est ça, d'ailleurs, qui va sur place.
Parce que c'est Paris.
Moi, j'ai juste le sentiment qu'une nouvelle fois, l'État se défausse. Pardonnez-moi, mais le domaine de Fontainebleau, c'est quand même un bien qui est national. Mm-hmm. Il a fait partie de la liste indicative de l'UNESCO qui était candidate, mm-hmm, pour être au patrimoine. Bref, il n'est que sur liste indicative. C'est un bien national et pour moi, c'est à l'État de protéger et de restaurer la forêt. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de solliciter toujours les uns et les autres, même si pour Bernard Arnault, que ce soit Kering,
etc.
Il y a eu 800 millions d'euros qui ont été collectés pour la restauration de Notre-Dame. Et bien évidemment, il y a eu une défiscalisation pour eux, puisque ça fait partie du jeu.
Je crois que Bernard Arnault a refusé la
défiscalisation. Oui, il a refusé.
Peut-être, en attendant, il aurait pu en bénéficier et peut-être que d'autres en ont bénéficié. Mais là, c'est à l'État de restaurer, de protéger. Je ne vois pas pourquoi on fait encore appel aux dons privés.
Il n'y a plus un rond dans la caisse.
Bah oui, mais c'est
bien ça, c'est bien ça.
L'argent, c'est ça la question.
Bah oui.
Bon, les GG, j'ai une pétition pour rejouer le match France-Espagne. On s'en fout ou pas, Abel?
On s'en fout pas.
Sandrine?
Allez, on s'en fout pas.
Emmanuel?
On s'en fout pas.
Est-ce qu'on serait pas un petit peu mauvais perdant, nous, les Français? Ce sont des supporters qui ont mis, en tout cas, en ligne, cette pétition pour refaire le match sans triche, cette fois.
Mais sur quelle base?
Ils estiment que Lamine Yamal, le joueur espagnol, a touché de la main le ballon juste avant le pénalty sifflé contre Lucas Digne. Alors déjà, 83 000 signatures, quand même. Mais évidemment, cette demande n'a absolument aucune chance d'aboutir. Abel.
Pardon, mais ça, c'est une demande de Footix. En 2010, on ne s'est pas qualifié à la Coupe du Monde grâce à une main de Thierry Henry. Là, ça ne gênait pas. Et si, franchement, on est incapable de voir combien même ce pénalty serait infondé, si on n'est pas capable de voir qu'on s'est fait manger par l'Espagne à tous les niveaux et que même sans ce pénalty, l'Espagne se serait qualifiée.
Bah non, c'est ça a changé vraiment la physionomie du match.
Deschamps, il joue en 4-2-4.
Tu vois le match.
L'Espagne,
il y a pas photo.
Mais oui, l'Espagne a coupé l'équipe de France en deux. T'avais une défense, une attaque, donc il y avait pas de transition. Le milieu était asphyxié et on s'est fait tuer.
Donc
l'Espagne.
Faut accepter la défaite. Mais on a perdu parce qu'on était moins bon. Voilà.
Moi, ce que j'attends, c'est le match de samedi, parce que si on se fait gifler par l'Angleterre, maintenant ça va être.
Mais il y a des gens.
Je vais regarder pourquoi.
Je suis assez pessimiste.
Parce que cette défaite face à l'Espagne, elle remet en cause en fait le niveau de l'équipe de France sur la compétition, parce qu'on s'est tous. Moi, je pensais qu'on allait en finale et que limite en finale on allait gagner.
Enflammé parce qu'on a aussi battu des équipes assez faible.
Oui, mais le Maroc était quand même un indicatif parce que c'était une équipe meilleure et les voir aussi faibles, je me suis dit, parce que le Maroc pouvait.
Oui, mais il n'a pas très bien joué le Maroc.
Voilà.
Oui,
et je me suis dit, peut-être qu'on est tellement fort qu'on va vraiment gagner cette Coupe du Monde. Finger
in the
nose.
Trop beau.
Et oui, exactement.
Sandrine.
Et moi, je trouve quand même, mine de rien, ils ont raison de tenter cette petite pétition. Bon, elle va peut-être pas prospérer, d'accord, mais quand tu vois que t'as un Donald Trump.
Ça fait pas mauvais perdant.
Non, attends, t'as Donald Trump qui passe un coup de fil quand même pour faire en sorte qu'il y ait une suspension qui ne soit plus effective.
Le tournoi qu'Emmanuel Macron appelle le président de la FIFA. Est-ce qu'on peut rejouer le match?
Exactement.
Et pourquoi pas? Si Trump l'a fait, pourquoi est-ce que lui ne le ferait pas?
T'imagines?
Bon, moi, je dirais que c'est sympathique. Ça montre un attachement de supporters déçus. Et je trouve. Il y a deux constats complémentaires à ce que Abel a très bien dit. Les joueurs d'équipe de France sont peut-être arrivés avec trop de de sentiment d'invincibilité, dû aux médias, dû à leur caractère de star pour certains. Peut-être que le staff a manqué aussi d'essayer de les rabaisser, si la chose était possible, probablement pas. Et puis, l'autre chose, je trouve qu'on est beaucoup trop sévère depuis la défaite, car ça reste du sport.
Oui, demi-finale, ça reste un bon résultat quand même.
Absolument, un très grand résultat. Avant qu'à Deschamps, j'aurais trouvé ça extraordinaire. Et c'est pas normal qu'on maintenant on tombe à bras raccourcis sur Deschamps, sur toute équipe.
Oui, mais peut-être qu'on en fait trop d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'on s'est vu trop beau. On a dit on a les meilleurs attaquants du monde, la meilleure équipe extraordinaire, on n'a jamais eu ça. Alors qu'on avait affronté que des équipes quand même assez faibles matière de football. Et alors maintenant, effectivement, on en fait trop, mais puisque là on brûle Deschamps, on brûle tout le monde.
Parce que je crois que la victoire du PSG, même si c'est pas la même équipe, a joué aussi un rôle pour estimer que la France en matière de foot devenait invincible.
Mais je pense que
c'est bien d'avoir confiance en soi aussi. Bon, la vanité, malheureusement.
Ouais, mais ce
après...
qui gêne, c'est pas le fait d'avoir perdu, parce que tu peux perdre en te donnant à 100%, c'est la manière dont on a été écrasé. Voilà.
Oui, mais c'est une manière aussi, j'imagine, d'imposer une espèce de guerre psychologique aux autres. La mairie écolo de Lyon veut prendre en compte la température des logements dans l'évaluation de leur salubrité, ce qui signifie que les locataires pourront désormais saisir la mairie si la température de leur habitation est jugée trop élevée. Un délai sera ensuite fixé pour que le propriétaire réalise des travaux. C'est une première en France quand même. L'absence de volets ou encore de stores pourrait, par exemple, être un motif de saisine en France.
Mais il ne parle pas de clim, c'est marrant.
En France, oui, mais si, parce que après, si les propriétaires sont obligés de faire des travaux pour refroidir...
Oui, mais dans les travaux, ils ne parlent pas de la clim.
Alors, en France, ce sont les mairies ou les ARS qui évaluent la salubrité des logements, puis c'est la préfecture par arrêté qui déclare si oui ou non un logement est insalubre et qui oblige la préfecture, les propriétaires à réaliser des travaux. Des travaux pour refroidir par comment alors s'il n'y a pas de clim?
Bah oui, c'est ça, c'est pour ça que c'est
l'isolation. Trop bidon. Bon, on s'en fout ou pas? Abel?
Moi, je m'en fous.
Ah bon, Sandrine? C'est inédit.
C'est quoi?
C'est inédit. En France.
Ah oui, tu t'en fous pas.
Je ne m'en fous
c'est
pas.
C'est Grégory Doucet, le maire de Lyon. Je suis vraiment disciplinée, moi, je
m'en suis fous soumise. Pas. Et je vais te dire pourquoi.
Alors,
qu'on en a ras-le-bol de cette nomenclature de dignitaires quasi-soviétiques qui décident pour les gens. Un peu de liberté, foutez-nous la paix. Et c'est la même chose pour l'humidité. Moi, il fut un temps, dans une cave en Vendée, j'avais des problèmes d'humidité qui foutaient en l'air mes étiquettes. J'ai découvert les déshumidificateurs, c'est dur à dire. On en met, c'est des bacs, etc. Ça dure un certain nombre de semaines. Et ça marche très bien. À chacun de se débrouiller. Et alors on dit c'est important parce que les mecs au Québec, ils ont la même chose. Mais si les Acadiens se caillent les meules, c'est leur problème. Nous, en France, on a droit à un minimum de liberté.
Mais Canada, en fait, il y a toujours dans l'idée que le propriétaire est un salaud et que si on l'oblige pas à faire des travaux, il ne fera rien. Bon, il y a un petit toujours côté comme ça du côté des écologistes de Lyon. Après, je pense quand même que ça va tout changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une annonce immobilière, tu vas devoir mettre en avant non pas que c'est plein sud, mais que c'est plein nord, non pas que c'est charmant, c'est sous les toits, mais au contraire, t'es quasiment dans une cave. Et c'est ça qui fera vendre ton appart. Mais oui, parce que les gens, ils vont plus vouloir.
L'été, il fait que 23 degrés dans l'appartement.
Non, mais les gens vont plus vouloir un truc exposé plein sud avec des grandes baies vitrées.
Ouais,
tout ce qu'on voulait avant, on va le fuir.
Non, mais attendez, c'est quand même pas Lyon qui a créé cette nouvelle règle. Elle existe déjà depuis 2023. Ça fait partie d'un article du Code de la santé publique.
Oui.
Bien évidemment, j'ai fait mes
recherches. Mais c'est ça qui enfonce la France. On s'enfonce.
Ah, ben il y a beaucoup de normes. Ça, je suis
norme
tout à fait d'accord.
Après norme,
mais bon,
on s'enfonce. Non, mais là, on en a ras la gueule.
On est en train de dire que c'est le maire de Lyon. Ça y est, il a imposé un seuil de température. Bon, ça existe déjà au niveau des conditions d'hygiène et de salubrité. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir une verbalisation automatique?
Il y aura un type avec un thermomètre qui va se balader dans tous les appartements.
Non, mais ça va.
38.
Il va y avoir des procédures à n'en plus finir. La mairie de Lyon, elle va être débordée parce que du coup, il va falloir qu'il y ait des enquêtes qui soient menées, diligentées au sein des appartements, qu'il y ait des rapports de commissaires de justice. Ça va coûter une fortune.
Pour Sandrine, le sous-texte, c'est que les propriétaires sont des thénardiers qui abusent de gens, etc. C'est insupportable.
Ah oui, c'est bien sûr.
Monsieur le maire de Lyon, lui, c'est un protégé absolu. Et puis, il n'a pas de carrière professionnelle, qui vit de la nomenclatura.
Il y avait Marine Tondelier à ses côtés.
Difficilement, mais il a été réélu. À la surprise générale, d'ailleurs.
Deuxième mandat.
Mais c'est amusant parce qu'on est toujours dans le refus de la clim. C'est ça qui est. Alors que, sincèrement, tu vas dans tous les pays où il fait 50 degrés l'été, c'est parce qu'on nous dit qu'il va faire 50 degrés, mais dans tous les pays où il fait 50 degrés, il y a la clim. Dans toutes les villes où il fait 50 degrés dans le monde, de Téhéran à Dallas, en passant alors, par. Mais il y a la clim.
Il y a
le maire de Lyon, M. Doucet, qui pense que la clim.
Je reviens de Malte, Olivier, il y avait la clim partout.
Mais oui, bien sûr, il y a la clim partout.
Mais émission après émission, démission, Olivier Truchot devient un véritable directeur commercial pour les climatiseurs.
Voilà. Et je n'ai aucune action
dans une entreprise de climat.
C'est quand même au propriétaire d'installer ces clim.
Ah bah bien sûr.
Il y a plein de petits propriétaires qui n'ont pas les moyens.
Mais c'est pas ça, c'est qu'on leur refuse. Va installer dans un immeuble ancien à Lyon la clim.
Et c'est aux employeurs aussi de donner un congé climatique comme demande très justement Madame Pondelier.
Eh bien, dans un instant, on va pas faire de congé climatique, on va revenir sur ce que nous a annoncé Gérald Darmanin. Vous savez, il avait demandé le réexamen de 70 000 plaintes concernant les violences sexuelles contre les enfants. Eh bien, on apprend que suite au réexamen de ces plaintes, on a mis 675 personnes en prison. Ben, on a bien fait de réexaminer, quand même. C'est effarant. Allez, à tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.